Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes en français, qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur cette antenne ou encore en podcast, ou encore même avec votre téléphone. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan Lobouliot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur d'ADRA Belgique. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Vous venez ici à ce micro aujourd'hui nous parler d'une campagne. Chaque enfant partout dans le monde à l'école. C'est une campagne qui a été lancée par ADRA International. Est-ce que vous pouvez nous en parler, même si on en a déjà parlé plusieurs fois au micro de Parole solidaire, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement ce qu'est cette campagne ?
Oui, bien sûr, c'est bien d'en reparler encore. De toute façon, la campagne a cours jusqu'à juin, donc on va encore en parler sans doute d'ici là. Mais donc rapidement, c'est une campagne en ligne, donc c'est une pétition qu'on invite à signer pour amener 1 million de signatures dans un événement qui aura lieu en juin avec l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, pour simplement pousser un peu les politiques et se positionner par rapport à cette thématique de la scolarisation, parce que on s'est rendu compte, et on le sait depuis de nombreuses années, que il reste encore 262 millions d'enfants à travers le monde qui sont non scolarisés, alors que les objectifs du millénaire avaient planifié que pour 2015, tous les enfants auraient accès à l'école, ce qui n'est toujours pas le cas.
Alors, c'est important que tous les enfants dans le monde soient scolarisés, Jonathan Lobouliot, et quels sont les enjeux autour de cette question ?
Alors, c'est une très bonne question. Oui, c'est important parce que la scolarisation, c'est le seul moyen de casser le cycle de la pauvreté. Par exemple, un enfant qui ira à l'école, ou principalement les jeunes filles, parce que c'est principalement les jeunes filles qui sont déscolarisées, si elles suivent une scolarité, elles peuvent avoir des revenus supplémentaires, elles peuvent avoir accès à toute une série d'éléments qui vont leur permettre de développer des activités, de développer le tissu économique de leur région. Mais ça, c'est la partie économique, mais on sait, ça a été prouvé au niveau des faits et des statistiques, que une jeune fille qui va à l'école, qui suit notamment l'enseignement primaire, eh bien, c'est aussi la diminution des mariages forcés par la suite, c'est la diminution des jeunes filles qui tombent enceintes de manière précoce. Pourquoi ? Parce que il y a tout ce système d'éducation, elle est prise en charge par des structures, elle est scolarisée, et il y a toute une série d'éléments qui étaient issus au manque d'informations qui disparaissent.
Donc en fait, l'école, c'est pas juste apprendre à compter, à apprendre les maths, le français, ou c'est aussi recevoir une culture finalement.
Exactement, c'est finalement s'approprier toute une série de concepts qui permettront d'envisager et d'avoir un avenir plus serein, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau de la santé, au niveau de la vie de famille. Voilà, il y a toute une série d'aspects. L'école nous apprend toute une série de choses. Elle nous apprend à être des citoyens, à être des parents, à être des travailleurs. Enfin, c'est multi-aspects, mais elle nous apprend surtout
à... Elle forme à la vie, en quelque
elle
sorte.
Elle forme à la vie, exactement, et elle nous pousse à nous dépasser. Et dans le cas de ces 262 millions d'enfants, mais c'est 262 millions d'enfants qui n'auront pas accès à ça et ne pourront pas dépasser finalement la pauvreté dans laquelle ils sont.
Alors vous, Jonathan Lobouliot, je sais qu'en tant que directeur d'ADRA Belgique, ce qui vous tient à cœur, c'est que cette campagne prenne sens. Vous appelez à ce qu'il y ait 1 million de signatures pour cette pétition, mais en même temps, concrètement, sur le terrain, comment est-ce que ça peut se traduire ?
Voilà, tout à fait. Nous, notre volonté, c'est bien sûr d'amener les gens à signer cette pétition qui permettra à mobiliser d'un point de vue plutôt politique, à dire on a 1 million de personnes qui se positionnent pour cette cause, mais il y a aussi des actions concrètes qu'on fait sur le terrain, et cette campagne, notamment en Belgique, est liée à un projet de scolarisation qu'on a en Somalie avec ADRA Allemagne, où on va justement améliorer les conditions de scolarisation dans plusieurs régions de Somalie, puisqu'en Somalie, il y a encore plus ou moins que 15% des enfants qui vont à l'école primaire, par exemple.
15%, c'est très faible.
Très, très faible, ouais.
Et donc, on n'ose même pas imaginer pour le deuxième cycle et le troisième cycle.
Exactement, oui. Mmh. Ici, on est en école primaire, donc les 6 à 12 ans. Donc voilà, c'est un taux excessivement bas. Et donc l'idée ici, c'est de faire un projet donc avec Tralmagne et d'autres partenaires. C'est un projet à plusieurs millions d'euros pour pas seulement créer des infrastructures, donc des écoles, des établissements de scolarisation, mais aussi aider les parents, aider les familles à trouver d'autres sources de revenus. Parce que on a remarqué que les enfants n'allaient pas à l'école. Pourquoi ? Parce que c'est une main d'œuvre pour les parents. Les parents ont besoin du travail que rapporte cet enfant pour pouvoir vivre tout simplement. Donc ils ne l'envoient pas à l'école, pas par plaisir, mais ils ne l'envoient pas à l'école parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire.
Parce que l'enfant doit être producteur finalement pour la famille.
Oui, c'est ça, il doit être productif, il doit produire et rapporter de l'argent en fait tout simplement.
Donc en fait, si les parents ont un petit lopin de terre à cultiver, eh bien il faut que l'enfant y participe, c'est ça?
Exactement, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
Et donc vous, votre proposition, c'est quoi? C'est d'apporter des solutions aux parents pour qu'ils puissent avoir un revenu équivalent à celui quand l'enfant les aide.
Exactement. Donc c'est à chaque fois analyser finalement les besoins des familles et savoir et trouver des solutions pour combler finalement l'absence entre guillemets du travail de l'enfant.
Oui.
Ça peut être les aider avec des microcrédits pour le lancement d'un petit poulailler. Ça peut être les aider avec des semences pour améliorer la productivité du jardin. Ça peut être toute une série de choses en fonction de leurs besoins évidemment et toujours en dialogue avec eux. Et on a remarqué que en fonctionnant comme ça, l'enfant restait à l'école. Parce que la plupart du temps, comment ça fonctionnait avant, on venait, on aidait la famille, on donnait un peu d'argent à la famille, l'enfant allait à l'école 6 mois, et puis quand il n'y avait plus d'argent dans la famille, il ramenait l'enfant à la maison. Ici, en travaillant sur du long terme, en travaillant sur du microcrédit et sur l'émergence de nouvelles sources de revenus, sur du long terme, eh bien, l'enfant peut rester sur du long terme également à l'école.
Donc en fait, ce projet va se mettre en place à partir de quelle période ?
Alors il est déjà en cours. D'accord. Et ici, il a été prolongé. Donc ADRA Belgique vient en renfort d'ADRA Allemagne pour la prolongation du projet jusqu'en 2022.
D'accord. Et ça se passe en Somalie ?
En Somalie, tout à fait.
Uniquement en Somalie ?
Oui, il y a beaucoup de travail, donc on se focus. Mais nous ici, ADRA Allemagne et ADRA Belgique, c'est la Somalie. Mais il y a d'autres bureaux d'ADRA qui travaillent dans d'autres régions du monde, évidemment, sur cette thématique et sur... Voilà, cette problématique.
Alors, je vous propose de revenir sur cette campagne « Chaque enfant partout dans le monde à l'école » et notamment sur la pétition. Comment est-ce qu'on fait pour signer cette pétition et pourquoi est-ce que les auditeurs qui nous écoutent, finalement, la signeraient, cette pétition ?
Alors, pourquoi la signer ? C'est simplement pour rejoindre un mouvement qui se lance à l'international et à travers le monde et qui a décidé de se positionner pour vraiment pousser cette thématique et remettre cette thématique sur la table des politiques partout dans le monde.
Vous avez parlé d'un événement au mois de juin à l'ONU, je crois. C'est quoi cet événement ?
Tout à fait, c'est la conférence générale du mouvement adventiste où il y aura des invités justement représentant l'UNICEF. Et cette pétition leur sera donnée à ce moment-là lors de cet événement du mouvement adventiste puisque ce projet, cette campagne est en collaboration avec donc ce mouvement.
L'Église adventiste.
L'Église adventiste, tout à fait, parce qu'ils ont aussi une légitimité, étant le deuxième réseau d'écoles privées dans le monde, ils ont aussi à cœur de scolariser la totalité des enfants.
Mmh. Donc en fait, cette pétition, on peut la trouver sur inschool.adra.org/fr. C'est en français et c'est tout à fait accessible.
Tout à fait. Ou de manière plus simple, vous allez sur le site www.adra.be et là, il y a un focus aussi sur la campagne. Il suffit de suivre les liens.
D'accord. Donc voilà, on invite les auditeurs à se rendre sur ces différents sites.
Voilà.
C'était Parole Solidaire. Merci d'être venu à ce micro nous parler de cette campagne. Chaque enfant, partout dans le monde, à l'école. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Now don't you let nobody turn you round, turn you round, turn you round. Turn you round.
keep on to Galilee. Turn you round, turn you round, turn you round, turn you round, keep on to Galilee.
I would not be alive,
my Lord,
tell you the reason why.
Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire.
Moi, j'aime les défis. J'ai aimé les défis en compétition. J'ai aimé les défis en haute montagne. Pour moi, de gravir un 4000 mètres ou plus et de résoudre la question d'amener des cabinets dentaires au Népal, c'est un peu du même. Ça veut dire qu'il y a un défi qui est là et puis on va jusqu'au bout.
Vous l'histoire, bonjour. On s'apprête à relever des défis de toutes sortes avec Pierre Hamet, notre invité. Tout au long de sa vie, il a exercé plusieurs activités comme ingénieur tout d'abord, puis pasteur pendant 26 ans. Entre-temps, il a fondé au milieu des années 90 une organisation qui met des aînés en action pour venir en aide aux plus démunis en Suisse, le pays d'origine de notre invité, et aussi partout dans le monde. Cette organisation s'appelle Senior en Mission. Pierre Hamet nous en dit plus au micro de Christine Raymond.
Ta première mission, si tu l'acceptes, c'est de nous expliquer la genèse, en fait, de Senior en Mission.
Alors, je suis allé plusieurs fois au cœur de la forêt équatoriale chez mes amis pygmées. Et une fois, j'ai deux personnes que je connaissais bien quand même m'ont demandé s'ils pourraient venir avec moi. Bon, j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai expliqué les choses et voilà que c'est dans le voyage avec un camion 4x4 et on doit couper des arbres, on doit des fois faire un nouveau chemin dans la forêt vierge. Et c'était peut-être 2h du matin, on a un pneu de camion qui était crevé, on était tous hyper fatigués. Mais un de ses amis était chauffeur de camion militaire et puis l'autre, il savait tout faire. Et j'ai vu ces hommes à l'œuvre et là, je me suis dit, attention, ne pars plus jamais seul. Prends avec toi des hommes de métier. Et puis alors, la deuxième expérience extrêmement forte, j'étais avec des jeunes en Afrique du Sud et on finissait de construire une petite maison dans un township pour les pauvres parmi les pauvres. Et là, on devait crépir la maison. Il n'y a aucun qui savait crépir cette maison. Alors on mettait le tiers du ciment au pied de la maison. J'ai pensé que c'était bien contre l'eau et puis les souris. Mais là, je me suis dit, il y a certainement des aînés qui sont à la retraite, qui auraient un plaisir inimaginable. Ils travailleraient une semaine ou 15 jours avec des jeunes, ils leur apprendraient les choses et puis ils feraient une semaine de tourisme avec d'autres aînés. Et donc, quand je suis rentré, j'ai dit tout de go, je fonde Seigneur en mission. Et puis, je pensais que les gens allaient courir vers moi, que j'aurais des secrétaires, tout. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais j'ai continué avec cette idée et peu à peu, des aînés sont venus et on a commencé effectivement de créer cette association Seigneur en mission. Je suis totalement persuadé que le team gagnant, c'est des jeunes et des aînés. Je l'ai expérimenté lors de plusieurs traversées du désert pour amener des camions, des véhicules, mais du matériel aussi, jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina, jusqu'au Ghana même, au Sénégal. Et j'ai vu que les compétences des aînés étaient nécessaires à certains moments, et que la technologie informatique des jeunes, leur joie, leur insouciance, c'est les teams gagnants. Et donc, chaque fois que je peux, je mets des aînés et des jeunes ensemble. Chaque fois.
Ensemble des seniors et des jeunes, une mission pas si impossible que cela. Pierre Hamet parlait de team gagnant d'ailleurs, mais comme son nom l'indique, Senior en mission veut avant tout valoriser les compétences des aînés.
Beaucoup d'aînés ont une immense expérience, à la fois professionnelle, mais aussi de vie. C'est vrai que plusieurs aînés avec lesquels je travaille, bon je dis aînés, ben moi j'en suis un maintenant aussi, mais je dirais que souvent ces hommes de métier, des agriculteurs, des mécaniciens, des électriciens, des personnes qui ont travaillé vraiment durement de leurs mains, ils se sentent des fois un peu inutiles. Mais quand je leur demande de charger un conteneur, ou bien de réparer des machines, ou de démonter des cabinets dentaires, ou des radiologies, je vois des hommes et des femmes épanouis. Dire « je peux faire quelque chose pour Dieu dans ce que je sais faire ». Et là, moi, je suis émerveillé. Émerveillé de leurs compétences, de leur générosité. Et je vois ces gens qui, trop souvent, ne savent plus quoi faire s'ils n'ont pas eux-mêmes un peu de terrain ou bien un atelier. Ceux qui sont confinés dans un appartement, par exemple, ils sont rayonnants de joie quand ils peuvent faire quelque chose de concret, de pratique et de montrer aussi leur savoir-faire. Et puis, de le montrer aussi à des jeunes qui sont avec nous.
Alors on vient de le mentionner, l'expérience compte, elle a de la valeur et la foi de ces gens, elle compte aussi.
Oui. C'est sûr que je dois dire au travers de tout ce qu'on entreprend dans le cas de Seigneur en mission, notre foi a beaucoup grandi. Parce que moi j'étais pasteur pendant 24 ans dans l'église, c'est vrai qu'on voit des choses magnifiques, d'abord des personnes qui trouvent Dieu, c'est pour moi le plus grand des miracles. Mais dans la vie pratique, concrète, de démonter des machines, de réparer, d'entreprendre des expéditions depuis la Suisse jusqu'au Mali, mais il y a tellement de défis que finalement, Dieu se plaît à vivre des choses avec nous, ce qui fait qu'on le voit agir dans plein de domaines, au point que certains ont trouvé la foi tout simplement au travers de ces voyages, en voyant, mais c'est extraordinaire. Comment Dieu est à nos côtés, il calcule les choses, il organise, il programme. Donc, je dirais, notre foi grandit à vue d'œil.
Toi-même, Pierre, tu es quelqu'un, de par ton caractère et ton expérience de vie, qui sait prendre des risques, même au sens physique du terme, aventurier, comme ça, faire des voyages. Et tu emmènes avec toi des personnes qui n'ont pas cette expérience-là. Comment ça se passe?
Alors, c'est sûr que qui dit aîné dit parfois aussi un peu rigidité, impatience aussi. Mais je dois dire que dans l'ensemble, ça s'est toujours très bien déroulé. Mais c'est sûr qu'il faut un chef. Il faut quelqu'un qui, à un moment donné, prend l'autorité. Imaginez, vous avez fait 600 kilomètres dans le sud du Maroc, ou au Sahara occidental, ou déjà en Mauritanie, et il faut chercher un endroit pour dormir. Chacun a son idée, même si c'est le désert. Il y en a toujours un qui trouve que là, on aurait dû aller plutôt là. Voilà. Donc, il faut savoir prendre des décisions aussi, mais je dois dire que j'ai quand même été émerveillé de voir que des personnes qui allaient en Afrique pour la première fois de leur vie, et nous avons eu des personnes de plus de 75 ans qui ont fait les 5000 kilomètres avec nous, et là, une fois de plus, j'ai vu le potentiel des aînés, qui est extraordinaire. Et alors là, je dois dire, comme il y a des jeunes avec nous, les jeunes sont plus vite fatigués, pas toujours aux mêmes heures que les aînés, mais les aînés, c'est vrai qu'ils ont une résistance, et je dirais, ils ne prennent pas froid pour n'importe quoi. Donc, c'est très beau. Et puis, il y a ce savoir-faire, il y a ce don d'eux-mêmes. C'est un privilège pour eux et pour nous de pouvoir vivre de tels voyages avec eux. Et je crois que notre société, peu à peu, est en train de redécouvrir la valeur des aînés qu'il ne faut pas perdre, qu'il ne faut... Alors, il faut les laisser se reposer aussi, bien sûr, mais... On parque trop nos aînés dans, voilà, ils ont la retraite, on n'a plus besoin d'eux. Je pense que la société aujourd'hui, surtout avec beaucoup de réfugiés, avec beaucoup de jeunes qu'il faudrait pouvoir suivre, pouvoir aider, pas seulement à l'étranger, mais aussi ici, développer des ateliers pour que ces aînés puissent consacrer un peu de temps pour des plus jeunes ou des réfugiés ou des chômeurs, leur dire, ben voilà, je viens un matin par semaine faire de la mécanique avec moi et on va réparer un véhicule ou un moteur pour d'autres pays, de la menuiserie, mais aussi au niveau de l'ordinateur. Moi, j'ai des aînés qui sont doués au niveau de l'informatique, mais comme ils aiment transmettre, mais alors il y a une règle importante, il faut leur demander un peu et pas trop.
Seigneur en mission, en ce qui te concerne, ça peut durer encore pas mal de temps?
Alors, ça durera encore longtemps, d'autant plus qu'il y a des plus jeunes qui nous rejoignent aussi. Et voilà, puis moi, c'est vrai que j'équilibre beaucoup ma vie entre l'étude, j'aime être à mon bureau, j'aime partager l'évangile, j'aime donner des études bibliques, mais comme j'aime aussi ce travail où je suis au volant de véhicules, je fais de la mécanique, je suis avec eux sur le terrain, j'avoue que ça équilibre énormément ma vie, énormément.
Tu viens de dire, Pierre, il y a quelques instants, annoncer l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, annoncer l'évangile?
Oui, alors pour moi, c'est très clair. Annoncer l'évangile, c'est d'abord vivre l'évangile. Et j'aime beaucoup un passage de l'Écriture qui dit « N'aimez pas seulement en parole, mais aimez en action et en vérité ». Pour moi, il faut l'action et la vérité, il faut les deux. S'il n'y a que l'action, les gens n'apprendront jamais à connaître quelque chose de ce Dieu créateur qui nous aime, d'un Seigneur qui nous sauve. Mais si il y a aussi que la parole, et là j'aurais beaucoup de témoignages à dire de personnes qui ont dit « mais oui, on nous annonce l'évangile, mais ça n'a rien changé dans notre vie, dans notre village ». Donc pour moi, il faut que des personnes puissent voir concrètement. Et c'est pour ça que les camps qui durent une semaine, ou bien c'est important, parce que, oui, si c'est une soirée, voilà, les gens, tout est bien, tout est magnifique, mais quand on traverse le désert pendant des semaines, ou qu'on souffre des fois en montagne ou dans la nature, qu'on dort dans toutes sortes de conditions, là, franchement, ils ont l'occasion de voir que nous ne sommes pas parfaits. Et ça leur fait du bien.
Ainsi s'achève la saga de Seigneur en mission que retraçait aujourd'hui son fondateur, Pierre Hamet. Que vous soyez déjà senior ou pas encore, mais intéressé à le devenir et par la question, rendez-vous sur le site seniorenmission.org. Et pour réécouter cette émission signée par Radio Réveil, eh bien, il vous suffit de quelques clics sur parole.fm ou alors nous retrouver sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. À bientôt. Ciao.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.iebc.org. awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la voie de l'espérance. IEBC, boîte postale 100-77-193, Damary-Lélis, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain, à la même heure, pour notre nouveau programme. Au revoir.